24.
Le ventre plein, il eut envie de somnoler, mais il s'obligea à rester éveillé. Ce train va s'arrêter en Géorgie, puis à Tampa, en Floride, pour finir à Miami, avait dit Matty. Si des gens te courent après, avec des avis de recherche et tout le tintouin, ils vont fouiller toutes ces villes. Mais le prochain arrêt, c'est juste une chiure de mouche sur la carte. Il y avait peut-être des gens qui le guettaient même dans cette petite ville. Néanmoins, Luc n'avait aucune intention de poursuivre son voyage jusqu'à Tampa et Miami. Se fondre au milieu d'une population importante pouvait présenter un avantage, mais il y avait trop de policiers dans les grandes villes. Et sans doute qu'ils possédaient tous maintenant la photo du garçon suspecté d'avoir assassiné ses parents. Par ailleurs, la logique lui disait qu'il ne pouvait pas fuir éternellement. Que Matty ne l'ait pas dénoncé relevait du miracle. Compter sur un autre coup de chance extraordinaire, ce serait stupide. Luc pensait disposer d'un atout précieux, un seul. Si le couteau à découper et caché sous son matelas par Maureen avait disparu en chemin, il avait encore la clé USB. Il ignorait ce qu'elle contenait. Ce n'était peut-être que les confessions décousues d'une femme rongée par la culpabilité, du charabia au sujet de ce bébé qu'elle avait abandonné. À l'inverse, c'était peut-être des preuves, des documents. Le train ralentit de nouveau. Luc s'approcha de la porte et s'y accrocha pour se pencher à l'extérieur. Il vit des arbres, beaucoup d'arbres, une route goudronnée à deux voies et l'arrière de maisons et de bâtiments. Le train passa devant un mât de signalisation. La lumière jaune annonçait peut-être l'approche de cette chiure de mouche dont lui avait parlé Matty. Ou bien un simple ralentissement, le temps qu'un autre train dégage la voie un peu plus loin. Ce serait peut-être mieux pour lui, car si un oncle inquiet l'attendait dans la prochaine ville, il serait à la gare. Luc voyait briller devant lui les toits métalliques de plusieurs entrepôts. Au-delà, on retrouvait la route à deux voies, et au-delà, d'autres arbres. « Ta mission, se dit-il, consiste à sauter de ce train pour atteindre ces arbres le plus vite possible. Surtout, n'oublie pas de courir en heurtant le sol, si tu ne veux pas te retrouver le nez dans le ballast. » Il se balança d'avant en arrière sans lâcher la porte, les lèvres pincées par un rictus de concentration. « Oui. » C'était bien l'arrêt évoqué par Matty, car il apercevait une gare droit devant. Sur les bardeaux verts décolorés du toit, on avait peint « Duprès, Sud et Ouest ». « C'est le moment d'y aller », pensa Luc. « Si tu ne tiens pas à rencontrer tes oncles. » « Un ?» Il se pencha en avant. « Deux ?» En arrière. « Trois !» Il sauta. Il se mit à courir dans le vide, mais son corps allait à la vitesse du train quand il retomba sur le ballast, à côté des rails. Trop vite pour ses jambes. Le haut de son corps bascula vers l'avant, les bras tendus derrière lui dans une tentative pour conserver son équilibre. On aurait dit un patineur de vitesse à l'approche de la ligne d'arrivée. Juste au moment où il pensait qu'il allait peut-être redresser sa course avant de s'affaler, quelqu'un cria « Attention !» Levant brusquement la tête, il vit un homme juché sur un chariot élévateur à mi-chemin entre les entrepôts et la gare. Un autre homme, assis à l'ombre du toit de la gare, s'arracha à son rocking chair sans lâcher le magazine qu'il était en train de lire et s'écria « Gaffe au poteau !» Luc aperçut alors un autre mât de signalisation, rouge clignotant celui-ci. Trop tard pour ralentir. Instinctivement, il tourna la tête et tenta de lever le bras, mais le côté droit de son visage percuta le poteau à pleine vitesse avant que Luc puisse se protéger. Son oreille estropiée encaissa le choc. Il rebondit, heurta le ballast et roula non loin des rails. Il ne perdit pas conscience, mais il voyait le ciel s'éloigner, revenir, repartir. Sentant quelque chose de chaud couler dans son cou, il comprit que sa plaie à l'oreille, sa pauvre oreille martyrisée, s'était rouverte. Une voix intérieure lui criait de se relever, de foncer dans les bois. Mais entendre et obéir étaient deux choses différentes. Quand il voulut se remettre debout, il échoua. « La machine est bousillée, » pensa-t-il. « Merde, quelle connerie !» L'homme descendu de son chariot élévateur le toisait. Vu du sol, il semblait mesurer au moins 2 mètres. Le soleil qui se reflétait dans les verres de ses lunettes empêchait de voir ses yeux. « Nom d'un chien, petit, à quoi tu joues ?»«
Je veux m'enfuir. »
Luc n'était pas certain de vraiment parler, mais sans doute que si.
« Faut pas qu'il me rattrape. Je vous en supplie, empêchez-les de me rattraper. »
L'homme se pencha vers lui. « Arrête d'essayer de parler. » De toute façon, je comprends rien.
T'as reçu un sacré coup sur la caboche et tu saignes comme un porc à l'abattoir. Remue les jambes pour voir. »
Luc s'exécuta.
« Les bras maintenant ?»
Luc les leva. L'homme au rocking chair rejoignit l'homme au chariot élévateur. Luc essaya d'utiliser ses talents de télépathe récemment acquis pour découvrir ce qu'il savait. En vain, impossible de lire dans leurs pensées. Calme plat. Le coup reçu sur la tête avait peut-être effacé ses dons.
« Il va bien, Tim ?»«
Je crois, j'espère. En cours de secourisme, on apprend qu'il ne faut pas déplacer une personne blessée à la tête. Mais je vais quand même courir le risque. » « Lequel de vous deux se fait passer pour mon oncle ?» demanda Luc.
« Tous les deux ?»
L'homme au rocking chair fronça les sourcils.
« Vous comprenez ce qu'il raconte ?»«
Non, je vais l'installer derrière le bureau de M. Jackson. »«
Je prends les jambes. »
Luc retrouvait ses esprits, grâce notamment à son oreille, qui semblait bien décidée à forer un trou dans son crâne, et à peut-être s'y cacher.
« Non, pas la peine, il pèse rien. Appelez plutôt Doc Roper, s'il veut bien venir à domicile. »«
À l'entrepôt, plutôt !»
corrigea l'homme au rocking chair.
Son rire dévoila des chicots jaunis.
« Oui, si vous voulez, allez-y, utilisez le téléphone de la gare. »«
À vos ordres, chef. »
L'homme au rocking chair mima un salut militaire et s'en alla. L'autre homme releva Luc.
« Lâchez-moi, je peux marcher tout seul. »«
Tu crois ? Voyons voir. »
Luc chancela un instant avant de retrouver son équilibre.
« Comment tu t'appelles, petit ?»
Luc réfléchit.
Pas question de donner son nom sans savoir si cet homme était un oncle ou pas.
Il semblait plutôt sympathique, mais zic aussi, là-bas à l'institut, quand par extraordinaire il était de bonne humeur.
« Et vous ? »
rétorqua-t-il.
« Tim Jamison. Allez, viens, reste pas au soleil. »